BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans ce nouvel épisode BFM Stratégie avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Group. On va parler de quantique aujourd'hui. Il y en avait beaucoup pour ceux qui sont allés à Vivatech. Vous pouvez même voir une machine, une d'IBM qui s'appelle le chandelier. Voilà, on voyait un peu, c'est une maquette, une reproduction, mais on pouvait voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Et il y avait beaucoup d'applications alors chez IBM, chez OVH Cloud. Il y avait Pascal aussi qui était sur le centre du GNC. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce domaine. Donald Trump a récemment annoncé près de 2 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans le secteur. En France, on a une belle filière, hein, les Pascal, les Alice et Bob, les Candela, C12, Cobly, Willink. Mais au-delà des annonces, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est réellement l'informatique quantique, hein? On en parle dans le chiffrement, dans la simulation, dans le calcul de trajectoire, dans les capteurs. Voilà, quand est-ce que les entreprises vont pouvoir en tirer de la valeur? On va en parler avec notre expert Jean-François Bobier. Bonjour.
Bonjour, c'est Frédéric.
Merci d'être avec nous, partenaire et directeur BCG, spécialiste des technologies quantiques et co-auteur justement d'une nouvelle étude du BCG consacrée au sujet du quantique. Pourquoi là, aujourd'hui, ce quantique suscite autant d'intérêt?
Alors bon, déjà...
Alors on se projette plus dans les années, enfin dans 50 ans, il faut bien comprendre.
Oui, voilà, pendant longtemps c'était un sujet de R&D. Oui, oui. Il y avait des ordinateurs mais qui étaient très peu puissants. Encore aujourd'hui, ils ont des grosses limitations, donc aujourd'hui on fait des expérimentations avec, on s'en sert
pas. En plus, il y a des technos très différentes les unes des autres, hein. Faut voir. J'ai cité notre filière française, mais voilà, ils sont pas tous sur le même créneau du quantique.
Hein. Alors il y a plusieurs manières de faire des ordinateurs quantiques. On a la chance en France d'avoir à peu près tout ce qu'on appelle et toutes les modalités représentées. On a de la chance. On a plusieurs technologies possibles. Pascal font des atomes neutres, donc ils piègent des atomes avec des lasers. Candela, ils utilisent des ordinateurs photoniques, donc ils guident la lumière et ils font des calculs en guidant la lumière dans un ordinateur. On a plusieurs technologies. Cobly, ils piègent des électrons avec un CMOS et ils font bouger pour faire des calculs.
Et le but, c'est ça, c'est d'accélérer encore. Alors, c'est pas une étape. Moi, c'est souvent ce que j'explique aux gens aussi, ma modeste connaissance dans le quantique, mais c'est de dire, c'est pas une étape de l'informatique, c'est pas une nouvelle étape de l'informatique. L'informatique poursuit, c'est un autre état justement de l'informatique.
Ça rajoute des nouvelles capacités de calcul qu'on n'avait pas. Ça va pas remplacer ce qu'on a, mais par contre, ça va ajouter de nouvelles capacités. Donc typiquement, un ordinateur quantique, il a cette puissance qui s'appelle la superposition. Donc il est capable d'explorer un espace de taille gigantesque. Donc s'il a n qubits, l'espace il fait 2 puissance n. Alors vous allez me dire, c'est par exemple si vous avez juste 50 qubits, déjà vous avez plus de plusieurs milliards de possibilités et c'est rien du tout. Hein. On parle d'ordinateur à plusieurs millions plus tard.
Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et alors vous en tout cas le rapport édité par le BCG dit qu'il y a un point d'inflexion commerciale, ce serait 2030.
Alors tout à fait. Alors pourquoi 2030? C'est pour des raisons techniques, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, on a des ordinateurs mais ils sont limités aujourd'hui par leur capacité, ils font ce qu'on appelle du bruit. Donc en fait, on voit des erreurs apparaître quand on fait des calculs et ces erreurs s'accumulent. Et donc on peut pas faire des calculs très profonds en fait. Aujourd'hui, on crée trop d'erreurs. Et à partir de 2030, ça va changer, on va avoir ce qu'on appelle la correction d'erreurs et donc les erreurs vont plus s'accumuler. Donc on pourra continuer le calcul aussi longtemps qu'on veut. Et donc ça va être un vrai changement et on l'attend pour 2030. Donc nous on pense que l'inflexion va arriver à ce moment-là.
Donc changement dans l'assurance, dans la finance notamment, ce seront eux les premiers à en bénéficier.
Alors nous comme on dit toujours, effectivement les secteurs qui vont bénéficier sont ceux qui ont des use cases et ceux qui ont beaucoup de dépenses informatiques, c'est-à-dire que si on dépense beaucoup d'informatique et qu'on a des use cases, bah évidemment ça tombe bien. Et donc là la finance typiquement, ils ont des budgets informatiques de plusieurs milliards d'euros. Donc typiquement pour eux ça tombe bien, ils dépensent déjà beaucoup en informatique. Et ils ont des use cases. Et on a aussi d'autres industries, par exemple comme la pharma, qui sont dans la même situation, qui vont aussi en bénéficier très tôt.
Donc on va voir ce côté. Alors, et puis je crois que c'est Quantinuum là, qui a été valorisé près de 15 milliards de dollars.
Ils ont fait leur IPO il y a 2 semaines. IPO,
oui. Tout à fait. IPO d'une boîte quantique. Hein. C'est vrai qu'on en a un petit peu moins parlé ici, mais c'est quand même assez important. Donc à la fois des use cases qui commencent à apparaître, à la fois, on l'a dit tout à l'heure, des technologies, enfin des avancées algorithmiques qui permettent d'accélérer tout ça. Est-ce qu'on a... Oui, enfin, j'imagine que vous avez déjà quelques exemples. Vous pouvez nous parler d'entreprises qui utilisent du quantique aujourd'hui.
Alors, comme je disais, alors on a plusieurs exemples. Par exemple, on a HSBC avec IBM. Ils ont démontré sur des cas de détection de fraude qu'ils arrivaient à faire mieux que un algorithme classique. Mm-hmm. On a AstraZeneca, par exemple, dans la pharma, qui cherche des molécules avec un ordinateur quantique. On a aussi BMW et Airbus qui ont collaboré sur des use cases plutôt dans la recherche des matériaux, des batteries, etc. Donc on a des avancées qu'il faut toutefois mettre juste un bémol, c'est qu'aujourd'hui les ordinateurs sont pas encore assez puissants pour qu'on ait des vrais.
Ouais, il y a pas encore de valeur massive qui a été.
C'est des expérimentations, c'est des travaux de préparation, mais par contre ils se préparent et ça veut dire que quand les ordinateurs dont je parlais tout à l'heure vont arriver, ils seront prêts à faire tourner les algorithmes pour ça.
Oui, concrètement, voilà, on commence à identifier les cas d'usage. Vous m'avez pas évoqué tout ce qui est chiffrement post-quantique et tout ça, parce que ça, c'est un vrai cas d'usage aussi.
Chiffrement, bon, si tout se passe bien, il va pas être utilisé, c'est-à-dire qu'on aura. Donc, les ordinateurs quantiques sont capables de déchiffrer les communications telles qu'on les utilise aujourd'hui, qui sont basées sur des mathématiques complexes, mais en gros, l'idée, c'est de décomposer un nombre en facteurs premiers. Un ordinateur quantique peut faire ça très rapidement. L'idée, c'est que quand les ordinateurs quantiques capables de faire ça vont arriver, on aura déjà changé notre technique de chiffrement et donc en fait le problème ne va pas se matérialiser a priori, on espère.
Alors justement, tous ces progrès, là, il y a aussi un risque, celui d'avoir des machines puissantes mais peu d'applications, parce que ça c'est quand même une crainte. Mais c'est ce rapport dit.
Oui. Alors en fait, le problème qu'on va avoir, c'est que l'informatique quantique, c'est vraiment un sujet où il faut être très patient. Donc moi, ça fait 8 ans que je suis dedans, et 8 ans qu'on dit on aura des trucs utilisables dans 3 ans. Donc là, on va avoir des ordinateurs quantiques corrigés d'erreurs, donc on va enlever le problème du bruit qu'on avait, qui nous a pollué ces dernières années. Maintenant, on va avoir peu de qubits au début. Donc le qubit, c'est ce qui mesure la puissance d'un ordinateur. C'est un peu équivalent à la fréquence ou à la RAM d'un ordinateur. Classique, si on veut faire simple. Au début, ils vont être très petits. Et donc, en fait, on va avoir 100 000 qubits. Et en fait, les meilleurs algorithmes, ceux qui marchent très bien, par exemple, on parlait de Shor tout à l'heure pour le chiffrement, ils ont besoin de millions de qubits. Donc, on sait, à 1 million de qubits, on sait faire plein de trucs. Par contre, à 100 ou 1000 qubits, on est à la recherche d'algorithmes, en fait, qui seraient utiles. Parce que c'est quand même un budget qui est très 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 petit. On peut pas faire beaucoup de choses avec.
Ce qui est compliqué aussi, c'est que dans cette technologie, c'est que c'est à la fois donc il y a de l'informatique, il y a de l'intelligence artificielle forcément, il y a de la chimie, il y a de la physique, ce qui fait que il y a un défi évidemment technologique, mais il faut aussi retrouver. Donc faut déjà avoir des gens multicompétences qui travaillent sur ce sujet-là. C'est pas évident quand on commence sa carrière en tant que chercheur. Il faut aussi rapprocher aussi ces chercheurs des fournisseurs de technologies, parce que là aussi quelqu'un qui va débarquer, enfin nous on appartient au groupe CMA-CGM, quelqu'un qui débarque de chez Pascal parce qu'il y a eu un investissement et qui dit voilà, nous on fait du quantique, bon, quand on parle au métier de CMA-CGM, on va pas tout de suite se comprendre un peu comment on va travailler ensemble. Ça c'est un élément important aussi.
C'est ce qui fait que c'est difficile. Nous, on le voit bien. Là, on est en train de faire une collaboration avec Alice et Bob au BCG sur justement les fameux algorithmes avec peu de qubits, parce qu'ils nous intéressent ceux-là évidemment, et on a un intérêt parce que Alice et Bob, ils ont visé ces ordinateurs-là en particulier. Et on voit qu'on a effectivement le problème que vous évoquez de mettre autour de la table différents experts, parce qu'on voit qu'on a besoin d'experts du hardware, d'experts des algorithmes. Là, on cherche dans les matériaux, mais même dans les matériaux, il y a plein de familles de matériaux. Donc, il y a les ferromagnétiques, liquides, les machins. Et en fait, vous avez besoin d'un expert à chaque fois sur chaque sujet. Et même dans un sujet, vous avez besoin d'un sous-expert dans le sujet. Donc c'est une des difficultés. C'est aussi, nous, la raison pour laquelle on pousse nos clients à se préparer. C'est-à-dire qu'on dit, vous avez peut-être, enfin, toute cette phase de découverte, elle est longue. Vous avez peut-être pas besoin d'atteindre l'ordinateur quantique idéal pour la mener. Vous pouvez déjà commencer à la faire maintenant. Ça prendra du temps.
Donc, pour vous, c'est ça. C'est ce que les dirigeants aujourd'hui par rapport au quantique, quand ils ont évidemment des cas d'usage, ils imaginent, je le disais,
quand ils sont dans la bonne industrie.
Dans la grande industrie, dans la finance, dans les assurances, ceux qui font des capteurs. Enfin, il y a pas mal de domaines, dans l'observation, la simulation. Il faut qu'ils s'intéressent de près à ce sujet-là.
Nous, on les recommande de se préparer. Faut pas surinvestir parce que, les ordinateurs sont pas prêts, mais faut pas non plus sous-investir valeur parce que il y a tellement de valeur à aller prendre que ce serait dommage d'attendre. Dans tous les cas, le chiffrement post-quantique dont on parlait tout à l'heure, ça, il faut le faire, mais c'est un sujet plus cyber.
D'accord.
Il faut le faire. C'est pas un sujet quantique, c'est du remplacement d'algorithmes. D'accord. Classique.
Donc quand on parle des cas d'usage, c'est pas forcément que du chiffrement.
Chiffrement, il faut le faire, mais c'est mm-hmm. à part à l'idée que, en fait, on est traité la cause du problème avant qu'il arrive. Et donc, oui, il y a une certaine urgence à se préparer parce que ça mm-hmm. va aller vite. Donc, et encore une fois, ça prend du temps, c'est pluridisciplinaire.
Voilà. Donc il faut les compétences internes aussi, parce que c'est pas tout d'avoir des bons mathématiciens, des bons informaticiens. Il faut comprendre cette technologie. J'imagine aussi. Et on commence. Je parlais de Pascal avec CMA CGM, mais voilà, ils ont signé avec Aramco. C'est deux exemples. Il y en a d'autres évidemment avec Candela, avec Obli, avec tous ces gens-là. C'est qu'il faut construire des partenariats solides aussi.
Ouais. Alors, en parlant de Pascal, on va bientôt avoir la confirmation là dans les prochaines semaines, mais ils vont faire l'équivalent, leur IP, ils vont faire un SPAC, et mm-hmm. Si tout se passe bien, ça va être notre première licorne française valorisée à 3 milliards d'euros.
Dans le quantique, quoi.
C'est tangible, on parle de mm-hmm. quelques semaines seulement côté en bourse, etc. Et oui, il faut... C'est pour ça que nous, par exemple, on travaille avec Alice et Bob, parce que en fait, il y a besoin d'être proche du matériel dans un premier temps, oui. de connaître comment il fonctionne. Non seulement il faut connaître l'informatique quantique, mais en plus il faut connaître aussi l'ordinateur dans lequel lequel on va travailler, parce que chacun a des spécificités. Et donc c'est utile de s'allier très tôt avec des fabricants parce que c'est comme ça qu'on va tirer le maximum de performance.
Oui, et puis savoir où est-ce que cette valeur va émerger, où est-ce qu'on va pouvoir l'identifier. Merci Jean-François Bobier d'être venu nous parler de tout ça. Vous êtes partenaire et directeur au BCG, spécialiste des technologies quantiques et puis co-auteur d'une nouvelle étude du BCG Institute consacrée justement à ce sujet, donc à retrouver évidemment sur le site du BCG. Merci de nous avoir accompagnés sur ce programme BFM Stratégie. À très bientôt pour un nouveau programme justement BFM Stratégie sur BFM Business.
BFM Stratégie sur BFM Business.